Et je vous invite maintenant à suivre la lecture de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus. Le cantique que nous avons chanté a déjà fait allusion à ce texte, le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. C'est depuis le XVIIe siècle qu'on a coutume de l'appeler la prière sacerdotale, car Jésus se présente comme le grand prêtre qui va dans les heures qui suivent accomplir le sacrifice de la croix, et qui se dresse en intercesseur pour tous les siens devant le Père, qui remplit donc le rôle du grand prêtre. Jésus, après avoir dit tout ce que les chapitres précédents nous rapportent, leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, c'est Judas, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Nous avons survolé hier, dans un grand exposé panoramique, un long exposé qui a suivi le fil des siècles, quel a été l'effort des chrétiens de tous les âges en vue d'unir ce qui était séparé ou de réunir ce qui s'était séparé. Nous avons constaté que le mouvement écuménique, c'est-à-dire le mouvement qui se consacre à la réunion de ceux qui portent le nom de chrétiens et qui ne sont pas unis encore, que le mouvement écuménique dans sa composante majeure, qui est celle du Conseil œcuménique des Églises, ou dans ses composantes parallèles, l'œcuménisme évangélique, et aussi l'œcuménisme tel que le pratique l'Église catholique romaine, que ce triple mouvement, qu'on peut appeler le mouvement œcuménique au XXe siècle, est un phénomène historique extraordinaire. C'est quand même la première fois dans l'histoire que quelque chose de cette ampleur se déroule. Il y a eu une préparation à partir du XVIIe siècle, principalement, avec des facteurs qui deviennent fort visibles au XIXe, mais c'est un fait du XXe siècle qui contraste avec la tendance centrifuge, tendance à la dispersion qui a caractérisé l'histoire du christianisme pour près de 18 siècles. Ce phénomène appelle donc une étude attentive. Il faut que nous y portions notre regard, il faut que nous réfléchissions de façon sobre, modérée, imprégnée de prière, en vue de discerner ce qu'il en est aux yeux de Dieu, en vue de prendre position, en vue d'ajuster une attitude et une démarche à son égard. Il nous faut éviter de réagir simplement selon notre sensibilité, par instinct, parce que ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Il nous faut éviter de simplement suivre la tradition de ce qui s'est fait précédemment, même parmi nous. Nous ne pouvons pas, sur une question de cette importance, nous contenter de répéter le passé ou d'agir selon un instinct du moment. Il nous faut trouver des principes bibliques qui nous guident et qui nous permettent de suivre un chemin sûr, un chemin approuvé par le Seigneur. Alors c'est le but même de notre travail aujourd'hui que de découvrir ces principes et de les appliquer, de discerner comment, dans la situation, en tenant compte des faits qui ont été brièvement évoqués hier, nous devons choisir, ou nous devons, disons, nous préparer à choisir. Je vais faire des propositions. J'ai essayé de réfléchir à ces questions depuis un certain temps, mais je souligne bien qu'il ne s'agit pas de régenter les consciences dans l'Église. Il ne s'agit pas pour moi d'imposer ce que je crois juste. Nous allons en débattre cet après-midi avec tout le temps qu'il faudra, et de toute façon, nous ne conclurons sans doute pas de manière unanime aujourd'hui. Une certaine diversité d'opinion est possible entre nous, mais nous devons tendre à une même pensée, à un même sentiment dans le Seigneur, sur la base d'une information sérieuse et d'une réflexion que nous voulons conduite, assistée par l'Esprit de Dieu lui-même. Mon premier point sera le suivant. Travailler à réunir est louable. Bon, je vous dis tout de suite quels sont les points principaux. Comme ça, vous verrez à quelle vitesse je progresse. J'espère que ça vous rassurera et que ça ne vous inquiétera pas. Mais je donne mes sous-titres, les quelques sous-titres qui correspondent donc à des sortes de thèses que je propose ce matin. Travailler à réunir est louable. Deux, d'autres considérations pèsent aussi. Pèsent aussi d'un bon poids qu'il faut prendre en compte. Trois, la sagesse requise associe plusieurs ingrédients. Enfin, je dirais lesquels à mon avis. Et puis quatrième thèse, c'est un peu le débouché. Engageons-nous dans l'écuménisme évangélique et dialoguons du dehors avec les autres. Dialoguons du dehors avec les autres écuménismes. Engageons-nous, nous y sommes déjà en fait, mais confirmons notre engagement, accroissons-le dans l'écuménisme évangélique et dialoguons du dehors avec les autres. Voilà les points que je vais développer dans l'exposé d'Institut biblique commun ce matin. Travailler à réunir est louable. L'union étroite des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ, est une haute valeur pour le Nouveau Testament. Nous avons lu la prière de Jésus-Christ lui-même. Nous voyons à quel point il insiste sur cette union de tous ceux qui croiront en son nom, non seulement des disciples qui sont avec lui dans la chambre haute, mais de tous ceux qui croiront par leur parole, qu'ils soient un, qu'ils soient parfaitement un, qu'ils soient un à l'image de l'union même du Père et du Fils dans la Trinité, une union qui est dans le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, l'union des chrétiens se faisant aussi dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Les épîtres abondent en référence à cette unité des chrétiens qu'il faut préserver, pour laquelle il faut lutter. L'apôtre Paul s'exclame avec indignation lorsqu'il apprend qu'il y a des divisions dans l'église de Corinthe. Mais le Christ est-il divisé? Mais ce n'est pas possible que vous vous divisiez comme vous le faites. Déjà dans l'Ancien Testament, le problème des divisions du peuple de Dieu était un problème douloureux sur lequel les prophètes ont parlé plusieurs fois. Et hier d'ailleurs, en introduction de l'étude, nous avons lu un des passages prophétiques et un autre touchant sur ce point. Les divisions qui existent, et depuis longtemps, parmi les chrétiens, sont à coup sûr malheureuses, en tout cas un grand nombre d'entre elles, dans les perspectives bibliques. C'est une échappatoire que nous ne pouvons pas honnêtement approuver que de dire « Oh, notre unité est spirituelle, nous sommes unis spirituellement. » Oui, mais il faut que cette unité se manifeste. Quand on dit « Nous sommes unis spirituellement », mais quand il y a de la méfiance, quand il y a le refus de collaborer, lorsqu'on dit « Oh, ce sont les autres », et puis c'est tout, il y a là comme un démenti pratique à l'unité spirituelle qu'on prétend avoir, et c'est vraiment une solution à trop bon marché que de dire « Oh bien, nous sommes unis spirituellement, nous avons l'unité spirituelle ». Non, non, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela, il faut faire autre chose. C'est aussi une échappatoire que de dire la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, elle a été forcément exaucée par le Père. Nous n'avons pas, nous, à réaliser le vœu de Jésus qu'il soit un comme nous sommes un, parce que le Père exauce toujours le Fils. Ce n'est pas à nous, les hommes, d'exaucer, c'est une prière adressée au Père. En effet, je crois que c'est une utilisation erronée de la prière dite sacerdotale de Jésus, que celle qui a parfois été faite. Jésus a souhaité cette union, faisons-la. Ça, c'est une utilisation erronée parce que Jésus parle au Père et il a été exaucé à la Pentecôte. À la Pentecôte, tous ses disciples ont été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. La prière sacerdotale est une prière qui vise précisément l'événement de la Pentecôte avec toutes ses suites. C'est l'union surnaturelle qui n'existait pas encore sous l'Ancien Testament. L'union surnaturelle de tous les vrais croyants par le Saint-Esprit qui a été répandu du ciel, qui est l'exaucement de la prière de Jean 17. Ça, c'est, en effet, il faut le dire, il faut bien le voir. Et donc, certaines utilisations un peu rhétoriques des versets de cette prière n'a pas été sérieusement justifiée par une juste interprétation du passage. Mais nous contenter de dire « cette prière a été exaucée, donc nous n'avons finalement plus à nous en préoccuper », c'est une échappatoire. Nous n'avons pas le droit, parce qu'il nous faut préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'apôtre Paul le dit très clairement dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4. Il peut y avoir une distorsion entre la conduite pratique des chrétiens dans les églises et puis ce fait théologique fondamental qui est la constitution d'un seul corps, le corps du Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Et alors, lorsque nous démentons en pratique dans notre façon d'être ce qui est le sens même de notre vie, vraiment, nous ne pouvons pas considérer que nous plaisons au Seigneur. C'est toujours d'ailleurs la logique dans le Nouveau Testament des exhortations. Sur la base de ce que Dieu a fait et qui n'est pas aboli, alors nous avons à vivre d'une certaine manière. Et ça ne se fait pas automatiquement, tout seul. Il y a une exhortation. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Oui. Si nous sommes un par l'Esprit, et que cette unité se concrétise, se manifeste, qu'elle ait une forme un peu plus repérable que ce qui est le cas dans une chrétienté dont les éléments se canardent et se bombardent si facilement. Donc, ce serait une échappatoire que de se référer simplement à l'union dans le Saint-Esprit qui a été réalisée effectivement et qui ne peut pas être abolie en exaucement de la prière de notre Seigneur Jésus. Je pense que je peux ajouter à cela que beaucoup des divisions qui existent encore aujourd'hui dans le champ de la chrétienté se sont faites pour des raisons injustifiables. Beaucoup de divisions se sont faites pour des broutilles. Beaucoup de divisions se sont faites pour des questions de personnes. Parce que tel leader avait envie d'avoir son petit troupeau à lui. Beaucoup de divisions se sont faites à cause de réflexes de solidarité ethnique, par exemple. Vous savez qu'au Rwanda et au Burundi, entre les chrétiens, même évangéliques, Hutu et Tutsi, ce n'est pas facile. Et c'est une très grande honte pour le corps du Christ que nous constituons. Là, il y a des divisions qui sont tout à fait injustifiées, injustifiables, et qui constituent aussi au moins un des obstacles à l'évangélisation du monde. Jésus dit bien « afin que le monde croie que tu m'as envoyé, qu'il soit un, afin que le monde croie ». Cela joue un certain rôle. Nous avons aussi, me semble-t-il, à reconnaître que dans un monde pécheur, dans une église pécheresse, il y a de puissants mécanismes de psychologie collective qui tendent à diviser et à durcir surtout les divisions une fois qu'elles se sont opérées. Lorsqu'il y a des groupes qui se sont constitués, ils tendent presque forcément dans le temps à dire « nous sommes ceux-là » et à consolider en quelque sorte leur identité séparée, en trouvant de bonnes raisons après coup pour s'être séparés des autres, en se faisant des images des autres. Ce sont les fameux stéréotypes qui sont de véritables caricatures, parfois tout à fait calomnieuses, parfois un peu ressemblantes, mais caricaturales quand même, malveillantes, de telle sorte que la méfiance s'incruste, de telle sorte qu'on n'a plus de relations. C'était comme ça entre les Samaritains et les Juifs, au temps du Nouveau Testament. Mais c'est comme ça entre bien des groupes de la chrétienté, et hors de la chrétienté aussi, hein, des groupes au sein de l'islam, par exemple. Les groupes, quand ils se séparent, ont tendance à durcir. Et après ça, les réconciliations sont extrêmement difficiles. Il faut noter, c'est aussi une loi que les sociologues peuvent repérer, que les leaders, les conducteurs, sont souvent les plus esclaves de ces tendances. Comme ils incarnent les groupes, puis en même temps ils ont un pouvoir, c'est un fait, un pouvoir à préserver sur les groupes, ils tendent à aller plus loin dans le sens d'une identité séparée. Parce que il s'agit de leurs troupes. Alors il s'agit de mobiliser leurs troupes, de bien les garder sous leur coupe, et de ce fait, les leaders sont particulièrement portés à ce renforcement des identités séparatistes. Et le diable, le diviseur, se sert de tout cela. Donc, premier point, travailler à réunir, étant donné tout ce que je viens de dire, c'est louable. Le Seigneur approuve. Deuxième point, d'autres considérations pèsent aussi. Il y a un autre plateau de la balance, et il ne faut pas se contenter de ce que je viens de dire et qui pèse de son poids aussi, bien sûr, mais d'autres considérations sont à voir. La première et principale, c'est que l'union voulue par le Christ est une union délimitée. Ce n'est pas une union tous azimuts, n'importe quoi, n'importe qui. Elle est délimitée par le respect, la reconnaissance, la confession de sa vérité. Jésus parle pour ceux qui ont cru en son nom. Jésus ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire mets-les à part, fais d'eux ta propriété particulière, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Ce qui équilibre à certains égards le souci de l'union, qui est très vif dans le Nouveau Testament, c'est un souci au moins aussi marqué pour la vérité, pour la droite confession de la parole de Dieu. Et lorsque la vérité est en cause. Le Nouveau Testament montre clairement que la division est parfois non seulement permise, mais même obligatoire. Même obligatoire. Elle est commandée. Il y a des divisions pour des raisons qui ne peuvent pas être retenues, et je les ai évoquées, mais il y en a d'autres qui, pour des raisons de fidélité à la vérité de la parole de Dieu, sont nécessaires. Et là, je ne vais pas passer en revue tous les passages, mais je vous dis les deux qui me paraissent les plus forts dans ce sens. Il y a la seconde épître de Jean, une toute petite épître, mais qui dit, à propos de faux docteurs, de gens qui n'enseignent pas selon la doctrine du Christ, qu'il ne faut même pas les saluer, parce que celui qui les salue participe à leurs mauvaises œuvres. Alors il faut bien comprendre, je crois que cette lettre est adressée à une église. Kyria l'élu, c'est pas le nom d'une femme individuelle, c'est un nom de code en quelque sorte pour l'église qui est l'épouse du Kyrios, le Seigneur. Donc elle est appelée de ce nom parce qu'elle est l'épouse du Seigneur, c'est l'église. À l'église, il est dit de ne pas saluer, il s'agit des salutations officielles, donner la parole. S'il s'agit d'un de ces faux docteurs qui n'enseignent pas selon la fidélité au Christ, alors il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est clairement dit, massivement dit. Et puis, il y a un passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, verset 17, qui a une portée assez large, et je dirais un mot de commentaire pour vous expliquer pourquoi je le sélectionne. Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. De tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, ils séduisent les cœurs des gens sans malice, etc. » Mais ce qui me semble particulièrement important, c'est que, d'abord, il y a une expression assez large, hein, ceux qui causent des divisions contre l'enseignement que vous avez reçu. La norme, c'est l'enseignement qui a été reçu des apôtres. Et il est dit, éloignez-vous d'eux. Cela veut dire que la séparation qui est obligatoire n'est pas seulement passive, mais active. C'est parfois un point qui est débattu quand on traite de la question de l'écuménisme, de l'union des chrétiens. Certains disent, si on se fait expulser, d'accord. Bon, alors là, on se sépare, mais on n'en a pas pris l'initiative. Si on se fait expulser, on ne peut pas faire autrement. Mais il ne faut jamais partir de soi-même. Il ne faut jamais se séparer. Certains ont cru devoir tirer cela, des exhortations à la paix, voilà, à la préservation de l'unité. Alors je crois que l'apôtre Paul nous montre bien que non, ce n'est même pas comme ça. Il faut carrément s'éloigner, c'est-à-dire se séparer, s'il y a une atteinte grave à la vérité de l'enseignement reçu. Éloignez-vous d'eux. À mon avis, de toute façon, cette distinction entre une séparation passive et une séparation active, c'est une distinction superficielle et qui n'est pas vraiment applicable. On sait très bien que si on se rend absolument détestable au voisin, on se fait expulser, n'est-ce pas? Il suffit d'être assez désagréable, et puis indirectement, on l'a quand même provoqué. Donc finalement, la distinction n'est pas une distinction sérieuse. Mais de toute façon, ce texte de l'Épître aux Romains me semble montrer clairement qu'il y a une démarche, une initiative de séparation qui peut, dans certains cas, être nécessaire. Et cela relève d'un sujet assez général sur lequel le Nouveau Testament nous instruit, me semble-t-il, assez clairement, celui de la discipline. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas « chacun faisait comme il lui semblait bon ». Ça, c'est la formule d'un Israël passablement affaibli au temps des juges, mais ce n'est pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu non pas de désordre, mais de paix. Dieu a institué des gouvernements, Dieu a voulu que l'Église prenne ses responsabilités et même exclue des gens qui déshonorent le nom du Seigneur. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 5, s'indigne de ce que les Corinthiens ne l'aient pas fait. Quoi, vous tolérez cela? Il y a un devoir de discipline, et ce dont nous parlons, c'est en fait une discipline pour raison de doctrine. Les faux docteurs doivent être exclus. On ne doit pas les accueillir. Et puis, s'il y a une majorité, il va falloir s'éloigner d'une majorité qui a été entraînée par une erreur grave. Il faut s'éloigner, d'après Romains 16, 17. Alors, je propose de dire, je le fais dans mes cours ordinairement, qu'une église de laquelle je suis séparé, c'est une église qui, pour moi, est sous discipline. En fait, il y a un motif qui correspond à un motif disciplinaire, et comme la discipline exclut ou institue une quarantaine ou une réduction dans les formes de la communion fraternelle, il y a une église qui est sous discipline. C'est à ça que ça revient au bout du compte. J'ajouterai aussi, parmi les considérations qui pèsent un certain poids, et sur l'autre plateau de la balance, par rapport au souci d'unité, que l'union visible de tous ceux qui se disent chrétiens dans le monde ne paraît pas réalisable dans des perspectives bibliques. Car il est évident que le diable multiplie les contrefaçons. Toute la stratégie du diable, c'est de troubler le jeu et de susciter des gens qui vont se dire chrétiens sans l'être, ou d'égarer des chrétiens à tel point que leur doctrine ne sera plus l'évangile. On voit bien dans le Nouveau Testament, il l'a déjà fait, il y a les judaïsants, comme on les appelle, contre lesquels l'épître aux Galates est rédigée, il y a sans doute les ancêtres des gnostiques dans l'épître aux Colossiens, et puis ensuite dans les épîtres pastorales. On peut compter sur le diable pour qu'il s'arrange à toute époque, pour susciter des formes fausses de christianisme, mais avec le titre, avec le nom. Alors, dans ces conditions, il n'est pas réalisable que, pour le regard extérieur, si l'on tient compte seulement du titre, du nom, tous les chrétiens soient unis. Je crois qu'on est obligé de dire non, ce n'est pas possible bibliquement, ça supposerait un monde dont le péché aurait été extirpé, or ce n'est pas le cas, le péché est encore dans le monde gît dans le malin. Donc, s'il faut travailler à réunir ce qui peut être réuni selon l'intention de la prière sacerdotale, il ne faut pas se faire d'illusions, et il ne faut pas prendre l'avis du monde comme la règle, comme le critère. Il y aura toujours forcément de l'incompréhension dans le monde. Il y aura toujours des gens pour dire « Ah, ces chrétiens, ils sont divisés. » Parce que il y aura toujours des gens qui paraîtront des chrétiens aux yeux du monde, puisqu'ils en porteront le titre, qui seront en fait des contrefaçons, des personnes entraînées par des contrefaçons. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, la Bible nous annonce plutôt, semble-t-il, un glissement vers l'apostasie dans la fin de l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Donc, l'idée d'une unité visible de tous les chrétiens qui soit authentique et approuvée de Dieu, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit réaliste, tenant compte des faits du monde spirituel et des prophéties. Alors, dans ces conditions, avec des considérations sur les deux plateaux de la balance, quelle est la sagesse qu'il faut essayer de mettre en œuvre ? Alors je dis que la sagesse requise associe plusieurs ingrédients. Il ne faut pas seulement de la sagesse, il faut du courage. Il faut accepter de porter l'opprobre du Christ et aller hors du camp à sa rencontre, c'est-à-dire subir le blâme de la société alentour qui ne comprend pas, intolérance. Il faut du courage, il faut un attachement à la vérité du Seigneur Jésus. Mais en plus, il faut de la sagesse. Et c'est surtout à propos de la sagesse donc, que je fais un petit développement. Je pense que la sagesse à laquelle nous sommes appelés dans cette question répudie ce que j'appellerais le fanatisme du tout ou rien. Mais pas seulement du tout ou rien. Une communion entière, aucun obstacle, on s'embrasse et puis c'est tout. Ou bien alors, pas de relation du tout, on ne se parle plus, on se considère comme ennemi. C'est ce que j'appelle le tout ou rien. Et je crois que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas sage. Mais de nouveau, c'est une tentation. Parce que c'est beaucoup plus simple, en un sens c'est plus facile à vivre, on ne se pose pas de problème, c'est tout ou rien. Mais à deux égards, je pense qu'il nous faut apprendre à graduer, à voir les différences, à faire des nuances. D'abord, entre les questions qui justifient la séparation et les questions qui ne justifient pas la séparation. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a un texte que je trouve très très important, au chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul dit à ses correspondants, versets 15 et 16, « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, des chrétiens adultes, assez mûrs, ayons cette pensée. » Il vient de parler de doctrine et d'attitude dans la vie. « Et si, sur quelque point, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Alors, ces versets me semblent très importants, parce qu'on voit bien que pour Paul, il y a une pensée qui doit être commune, un point qu'il faut atteindre pour pouvoir marcher ensemble. Au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. Il faut un minimum d'accord pour pouvoir être ensemble, collaborer, avoir des formes qui expriment la communion. Mais en même temps, Paul montre aussi que sur d'autres points, il faut alors de la charité fraternelle, de la tolérance. Si vous êtes sur quelques points d'un avis différent, Dieu vous éclairera plus tard, je l'espère en tout cas, mais on peut passer par-dessus. Vous voyez comment l'apôtre Paul traite ici cette question. Donc, ça fait deux catégories. Des questions fondamentales qui justifient qu'on se sépare et des questions qui touchent la vérité même, mais qui ne sont pas centrales, qui ne sont pas décisives et sur lesquelles il faut accepter, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous comprenons les uns et les autres toujours en partie seulement l'enseignement des Écritures, où il faut accepter d'avoir des avis différents et puis toujours marcher ensemble, ne pas se séparer pour autant. Et c'est un péché de se séparer lorsque le point n'est pas un des points qui justifie la séparation. Donc cette distinction est une distinction fondamentale et très très importante. Mais j'y ajoute une autre, peut-être un tout petit peu plus subtile. C'est un petit peu moins souvent perçu, et pourtant je crois que c'est aussi très 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 important. Il n'y a pas seulement ces deux catégories, les questions sur lesquelles il faut être d'accord, les questions sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, et puis c'est tout. Je crois qu'il y a aussi une graduation sur les questions où l'on n'est pas d'accord, et alors on ne peut pas avancer ensemble à 100%. Il y a une gradation, c'est du plus et du moins, et la séparation est proportionnelle à l'importance du point qui sépare. Au lieu du tout ou rien, nous sommes entièrement d'accord, bon, alors c'est tout, ou alors nous sommes plus d'accord du tout et nous ne faisons rien. Une gradation, une proportion. Nous sommes d'accord sur des questions de premier rang, mais pas sur des questions quand même importantes, mais de second rang seulement. Bon, alors nous n'allons pas marcher ensemble, tout à fait. Nous n'allons pas être membres de la même église. Vous ne pourrez pas être membre de mon église, je ne pourrai pas être membre de votre église. Mais quand même, nous nous reconnaissons comme frères. Mais quand même, nous allons pouvoir collaborer, faire certaines choses ensemble. Vous voyez, c'est ça ce que j'appelle la gradation, la règle de proportion. Et j'ai une difficulté pour prouver que c'est une bonne attitude biblique que là je vous propose. C'est que dans la Bible, la situation se présente assez rarement, parce qu'il y avait les apôtres, qui étaient, eux, des ministres plénipotentiaires du Seigneur Jésus, qui étaient inspirés infailliblement par Dieu. Alors eux, ils pouvaient dire que si on refusait leurs paroles, c'était vraiment une révolte fondamentale contre l'autorité du Christ. Alors nous ne pouvons pas dire ça en ce qui nous concerne, parce que nous sommes faillibles. Donc du coup, dans le Nouveau Testament, comme il y avait les apôtres, c'était plus proche d'une situation du tout ou rien, à cause de l'autorité majeure des apôtres. Mais quand même dans le Nouveau Testament, je pense qu'il y a une base pour ce que je dis, et que donc la proposition que je vous fais peut être justifiée. Il y a d'abord le fait que la Bible nous enseigne clairement la différence d'importance des sujets. Non seulement deux catégories, comme en Philippiens 3, 15 et 16, mais de manière plus générale. Jésus l'a dit à propos de la loi. Il a parlé des choses qui pèsent le plus dans la loi, et puis d'autres qu'il ne faut pas négliger quand même. C'est en Matthieu 23 que Jésus l'a dit. Donc Jésus a montré que la vérité, ce n'est pas comme un bloc de pierre, c'est plutôt comme un organisme vivant, où il y a des organes vitaux, le cœur, le foie, le cerveau, et puis des membres qui ne sont pas négligeables. Pas un simple appendice qu'on peut enlever, et encore l'appendice il n'est quand même pas tout à fait inutile, mais une main, un bras, on peut vivre manchot. Ce n'est pas très gai, et c'est quand même grave. Mais on peut vivre, vous voyez. La vérité biblique ressemble à un corps vivant, et ce n'est pas juste un gros bloc, on ne pourrait pas faire de différence. Ça, c'est, me semble-t-il, ce que la Bible nous enseigne, et en particulier ce texte du Seigneur Jésus sur la Torah elle-même, au chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu. Et puis l'autre point concerne précisément la discipline. La discipline en général. Je suis très frappé par ce qu'on trouve à la fin de la seconde épître aux Thessaloniciens. Bon, il s'agit plutôt de conduite là que de doctrine, mais on ne peut pas faire au bout du compte de différence, et je crois que les mêmes principes jouent. L'apôtre dit d'un frère qui vit dans le désordre qu'il faut cesser d'avoir des relations avec lui pour qu'il ait honte, mais il ajoute ne le traitez pas en ennemi, avertissez-le comme un frère. Ça veut dire que la relation, lorsqu'il est sous discipline, n'est pas une relation selon le tout ou rien, il est toujours considéré comme un frère. C'est pas la même chose qu'avec les faux docteurs. On dit que ce sont des antichrists. Ils sont sortis des nôtres, de nos rangs, mais ils n'étaient pas des nôtres. Là, considérez qu'il est toujours un frère. Et donc, vous continuez à l'aimer comme un frère. C'est pour qu'il se rende compte que sa conduite n'est pas bonne, que vous allez, en quelque sorte, le mettre en quarantaine, mais c'est proportionné, voyez. Il y a un ajustement par rapport à l'importance de la cause de séparation. Et je suggère donc que cela fait partie de la sagesse à mettre en œuvre dans le débat sur l'écuménisme, que nous avons à ajuster le degré de séparation. Toujours un autre ingrédient de la sagesse requise, je pense que la sagesse à laquelle nous sommes appelés démasque des glissements qui sont de faux raisonnements, mais c'est subtil, des équivoques qui font dérailler un certain nombre de gens. Il y a les équivoques sur certains mots. Il faut, je crois, les mettre au clair. Il me semble qu'il y a deux expressions qu'on entend souvent qui sont l'occasion de petits glissements sous la surface. Le mot de dialogue, je l'ai employé tout à l'heure, hein, mais justement je vais expliquer. Et le mot de reconnaissance, reconnaissance de l'autre. Dialogue, normalement, ça veut dire qu'on se parle. Et si on se parle, on peut très bien ne pas être d'accord, ça ne veut pas du tout dire qu'on est d'accord. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais, il est sûr que pour certains, le mot de dialogue se charge de suggestions supplémentaires, de l'idée que si on dialogue, alors on cesse de croire qu'on a la vérité. Que l'on met l'autre sur un pied d'égalité, qu'on pense que l'un et l'autre ont la vérité. Voilà ce que pour beaucoup de gens, le mot dialogue implique. Alors c'est de l'équivoque, parce que c'est pas dit en clair et puis en même temps c'est suggéré. Si on dialogue, on suspend toute démarche de condamnation des vues de l'adversaire. On ne dit plus « il a tort », voilà, on est là simplement à dialoguer. Dit là, c'est de l'équivoque. Je ne peux pas, honnêtement, ayant reçu la lumière de la part du Seigneur, trouvant comme une chose lumineuse dans sa parole telle et telle vérité, dire « Oh, je mets ça entre parenthèses pour dialoguer ». Non, je ne peux pas. Je suis prêt à dialoguer, mais au sens ordinaire et juste du terme, parler, oui, d'accord. Mais il ne s'agit pas de faire comme si je n'avais pas été saisi par la parole de Dieu, comme si je n'étais pas persuadé que c'est là la vérité. Oui. Mais voyez l'équivoque qui peut se glisser. La même chose pour reconnaissance de l'autre. On reconnaît l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi dans le domaine politique d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut dire, tu es autre que moi, mais je te respecte comme personne, et puis je suis prêt à parler, et non pas à échanger des injures simplement, très bien, d'accord. Mais si on veut dire, on reconnaît l'autre, ayant une position aussi valide, de même droit que celle que j'ai. Non, c'est pas vraiment honnête, je ne crois pas qu'il soit dans la vérité. au moins sur les points qui nous séparent. Donc, je reconnais qu'il a le droit par rapport aux règles du fonctionnement de la vie humaine d'avoir son opinion. Mais devant Dieu, il n'y a que la vérité qui est un droit. Donc, voyez comment les glissements d'équivoques peuvent jouer à propos de mots de ce genre. Alors, il faut que nous soyons au clair, que nous élucidions ce tel point. Un autre glissement que j'ai observé souvent, c'est l'anticipation pratique sur des accords qui ne sont pas encore réalisés. Ça, c'est assez typique du mouvement œcuménique principal, celui qui est représenté par le Conseil œcuménique des Églises. On dit, le Seigneur nous a appelés à nous réunir, à nous unir. Nous ne sommes pas encore d'accord. Il y a encore des points à élucider, mais allons-y, prenons la Sainte Seine ensemble, pas de problème. En quelque sorte, on tire des traites sur l'avenir. Ça apparaît comme une démarche de foi. Puisque le Seigneur veut que nous soyons unis, même s'il y a encore des barrières, faisons comme si elles n'étaient pas là. Je crois que c'est un piège. Je crois que c'est quelque chose qui, en fait, signifie présomption humaine. Devant Dieu, c'est lorsque nous confessons la même vérité de sa parole que nous pouvons prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, ce n'est pas à nous de dire, oh bien, nous passons par-dessus un désaccord grave parce que nous pensons que nous y arriverons plus tard. Ce n'est pas à nous de le dire. En tout cas, c'est comme ça que je vis la chose. Autre élément, les dosages à propos des choses qui nous unissent et des choses qui nous divisent. De nouveau, ça devient facilement sophistique, c'est-à-dire des petites entourloupettes. On dit, ce qui est important, c'est ce qui nous unit. Puis on en parle tellement qu'on glisse comme sous la carpette ce qui divise. On ne dit pas qu'il y ait des choses qui divisent, mais on fait finalement comme si c'était tout à fait négligeable. Alors c'est vrai que ça peut compenser une attitude inverse qui est aussi déséquilibrée. On peut tellement s'exciter sur les points de désaccord qu'on oublie tout ce qui peut être commun. Mais quand même, quand on n'est pas d'accord, il faut bien parler de ce dont on n'est pas d'accord avant de pouvoir marcher ensemble, lorsque c'est assez important. Et il y a une façon de dire ce qui nous unit est plus important qui, je crois, minimise abusivement des questions qui restent, des questions de fidélité à l'enseignement du Christ. Et aussi une façon de présenter les différences, qui les présente comme complémentarité. Vous assistez sur la continuité, nous sur la discontinuité. Bon, ben finalement, nous sommes complémentaires. Vous êtes pour l'ordre, nous pour la liberté, c'est deux valeurs, eh bien, nous sommes complémentaires. On institue, je crois, des fausses symétries pour suggérer que, comme ça, on peut s'accorder. Il y a eu un document appelé Coream, c'est des initiales, entre évangéliques, certains évangéliques et certains réformés du canton de Vaud, que j'ai critiqué, parce que j'ai trouvé qu'il donnait trop dans cette façon de présenter les choses. La sagesse ne dramatise pas la diversité des dénominations. J'ai dit qu'il y a des divisions qui déshonorent le Christ. Mais je ne pense pas que l'existence d'églises qui s'appellent évangéliques libres, d'églises qui s'appellent évangéliques baptistes, d'églises qui s'appellent assemblée de frères ou maintenant de France, qui sont prêtes à collaborer, qui ont réellement la même doctrine, la même pratique, dont les pasteurs vont d'une union à l'autre. Je ne pense pas du tout que ce soit un scandale. Pourquoi appeler ça un scandale? Ce n'est pas une division. En fait, c'est à peu près équivalent à la diversité des églises de maison, à Corinthe, ou à Antioche, ou dans les premiers siècles. Il ne faut pas se laisser prendre au piège simplement des étiquettes. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs étiquettes qu'il y a des divisions pour autant. Alors, il y a des refus de collaboration, il y a des méfiances qui, elles, sont des divisions contre lesquelles il faut lutter, mais c'est autre chose. Et je crois que pour être sage, il ne faut pas dramatiser donc à l'excès. Et puis encore, un trait pour définir la sagesse à laquelle nous sommes appelés. Selon l'exhortation du Seigneur Jésus, dans un autre contexte, il est vrai, il faut calculer la dépense. Ça fait partie de la sagesse du chrétien dans le monde. Nous avons des ressources limitées. Nous avons un temps pour les choses à faire qui est limité. Alors, le dialogue, par exemple. Une fois les équivoques balayés, c'est très bien. C'est une chose, je crois, qu'on peut recommander. Mais si ça prend tout le temps qui est disponible, si on y consacre toutes ses forces, Je pense quand même que ce n'est pas très sage. Nous avons diversité de choses à faire et nous avons à investir devant le Seigneur notre temps et notre force dans des choses qui ont quelque chance de porter du fruit. Alors il y a des formes d'écuménisme qui, à mon avis, ne sont pas interdites par principe, dont on peut tout à fait envisager que des chrétiens évangéliques y participent, mais dont je dirais, nous n'avons pas les ressources pour nous y investir. Ce ne serait pas sage, parce que les promesses du dialogue ne sont pas telles qu'il vaille la peine, étant donné les autres urgences du royaume de Dieu, d'y investir beaucoup de jours. Beaucoup. Vous voyez, c'est un autre point de vue, celui-là. Mais il est aussi un point de vue dont on doit, me semble-t-il, tenir compte. Ces éléments de sagesse pratique, j'en oublie peut-être, mais proposés, alors à quoi est-ce qu'on arrive dans la situation telle qu'elle a été décrite sommairement, bien sûr, hier? Alors la proposition que je fais, c'est engageons-nous, ou restons engagés dans l'écuménisme évangélique, et dialoguons du dehors avec les autres. À mon avis, il n'y a aucune raison sérieuse contre et toutes les raisons sérieuses pour l'écuménisme évangélique, c'est-à-dire les efforts pour unir plus étroitement les chrétiens évangéliques, ceux qui croient à la divinité de Jésus-Christ, à l'autorité absolue des Écritures, l'absence d'erreur dans les Écritures, qui annoncent le salut par la grâce seule à cause de la croix du Seigneur Jésus qui a pris nos péchés, qui a subi notre châtiment à notre place, qui attendent le retour du Seigneur Jésus. C'est ça les chrétiens évangéliques. Eh bien, je dis qu'entre les chrétiens évangéliques, il devrait y avoir beaucoup plus d'unité qu'il n'y a. Il y a des efforts, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes contentés beaucoup trop facilement de collaborations occasionnelles pour des campagnes d'évangélisation et nous avons laissé de côté, presque sans en discuter, certains sujets de désaccord. Je pense qu'il vaut la peine, là, parce qu'il y a une pleine promesse de fruits à la gloire de Dieu, et il vaut la peine de s'engager dans l'écuménisme évangélique, celui qui est représenté par le mouvement de Lausanne, par l'Alliance évangélique universelle, etc. Donc c'est là le premier point. Mais maintenant, il y a les autres écuménismes, l'écuménisme majoritaire, celui qu'on évoque généralement quand on dit simplement l'écuménisme, du Conseil œcuménique des Églises, et puis il y a tout ce qui se passe du côté du catholicisme, qui n'est pas mort. Moi, je ne pourrais pas, en conscience, adhérer à l'écuménisme du Conseil œcuménique des Églises, malgré la présence de vrais chrétiens et de personnalités admirables dans ses rangs. Ce n'est pas du tout occulté, ce serait aussi. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? Principalement parce qu'il y a dans ce mouvement, et qui joue un rôle non négligeable, des églises et des personnes qui prêchent un autre évangile. Selon la façon dont je saisis les choses dans l'écriture, donc vraiment, il y a là un écart fondamental très lié à l'essence même du message qui me donne la vie. Alors, c'est ça qui me gêne trop. Et puis, c'est d'ailleurs une suite de ce premier élément, l'orientation dominante, la politique axiale menée par le Conseil œcuménique des Églises me paraît trop à distance de la voie droite. Bon, c'est un peu un compromis entre l'aile gauche, l'aile droite, etc. Mais la ligne directrice dans ce que fait le Conseil œcuménique des Églises,
par une nanesse, Dieu se sert d'instruments extrêmement divers et il y a des hommes et des femmes remarquables qui peuvent nous instruire aussi. En ce qui concerne l'autre direction qui est celle du rapport aux catholiques, les dispositions que je recommanderais seraient équivalentes. L'union, elle me paraît tout à fait exclue à cause des différences sérieuses qui subsistent, et nous devons donc nous garder des gestes qui feraient que c'est presque acquis. Bien qu'il y ait de vrais chrétiens et des personnalités admirables, et même, je dirais, des catholiques qui sont quasiment évangéliques, qui sont vraiment très très proches de nous aujourd'hui. Le catholicisme est devenu, nous en avons parlé hier, d'une diversité extrême. Et donc nous ne nions pas qu'il y ait dans l'Église catholique des chrétiens qui soient très proches de nous. Mais malgré ça, je dis attention, l'union n'est pas proche, et si nous faisons des gestes qui le laissent penser, alors nous sommes imprudents. Alors là, le problème de ces gestes, d'ailleurs, est un problème assez délicat à traiter. Parce que nous ne sommes pas en même temps responsables de tous les malentendus qui peuvent surgir. Il y a des gens qui raisonnent mal, des gens qui se trompent sur les indices. Disons qu'il nous faut être sages et prudents en fonction de ce que des personnes informées et qui sachent un peu les usages peuvent décoder des gestes qui sont faits. Une réunion commune, par exemple. Nous ne pouvons pas porter le poids de toutes les conséquences chez des gens qui raisonnent mal. Mais il faut être là, dans une juste moyenne, en fonction de la valeur des symboles sociaux. Dans le catholicisme actuel, je pense que les raisons qui m'empêchent d'adhérer seraient les suivantes. Le grand corps qu'est l'Église dite romaine penche soit vers un catholicisme traditionnel dont certains dogmes nous paraissent fortement opposés à l'Écriture. Je pense que c'est surtout la vénération de Marie, le culte rendu à Marie, qui pourrait être mentionné aujourd'hui. Et on sait que le pape, qui sur certains points dit des choses très réjouissantes, très, très courageuses, est aussi très dévot de la Vierge Marie. Pape Jean-Paul II a pour devise, je le rappelais hier, « Tout à toi », en latin, « totus tuus ». Mais c'est dit à Marie. C'est à Marie qui. Donc il y a des choses avec ce catholicisme relativement traditionnel qui vraiment, non, empêcherait l'union. Et pour les autres courants du catholicisme, alors le grand problème, c'est celui du glissement vers le modernisme. C'est le fait que la pensée du siècle, du monde, a influencé beaucoup, beaucoup de théologiens qui sapent les fondements mêmes, la résurrection de Jésus-Christ comme un événement historique, par exemple. Donc, cela m'empêcherait certainement d'aller plus loin. Et puis, une considération là de réalisme prudent. En France, il y a une telle disproportion de nombre et de ressources, que si nous ne faisons pas attention, nous nous faisons, selon les lois là des rapports sociaux, nous nous faisons avaler. Nous sommes, nous les chrétiens évangéliques, une si petite minorité que nous avons à faire attention, pour, non pas pour nous-mêmes, non pas pour l'identité de notre groupe, là ce serait de mauvais motifs, mais pour la vérité de l'Évangile qui nous est donnée de voir plus clairement. Nous devons faire attention à cause de ce rapport de nombre et de force qui n'est pas celui d'autres pays. Et donc nos réactions peuvent différer de celles de certains des évangéliques aux États-Unis, par exemple. Mais cela dit, pas de crispation non plus. Nous avons à reconnaître que nous sommes proches de certains d'entre eux et qu'il y a des collaborations limitées dont les objets sont clairs et définis qui sont possibles aussi. Je pense que pour la diffusion de la Bible, ce n'est pas impossible, au contraire, c'est une chose heureuse et positive. Voilà ce à quoi j'arrive comme proposition. Et le dernier mot que je veux prononcer, la dernière pensée que je veux vous livrer est la suivante. Nous avons à nous garder, comme le roi à Poitiers, à droite comme à gauche comme à droite. Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche. Il est aussi grave d'errer par trop de dureté en se refermant que d'errer par trop d'ouverture en se rabolissant. On est infidèle des deux côtés. Et donc, il est nécessaire de trouver la voie que la sagesse du Seigneur nous prescrit, et nous avons à le faire ensemble et en nous aidant les uns les autres à la trouver. Merci pour votre attention. Je rends la présidence à notre pasteur.
Je ne vais pas tout de suite dire mes réflexions, je les garde pour cet après-midi. Tout simplement, je voudrais en tout cas préciser que l'Église locale, à mon sens, a un rôle extrêmement important à jouer dans le cadre de l'œcuménisme. Parce qu'il me semble que c'est là que nous devons préparer à vivre le vrai œcuménisme. Et si nous ne sommes pas en mesure de nous accepter les uns les autres, nous qui vivons sous un même toit, qui avons les mêmes principes, et si nous ne sommes pas encore en mesure de marcher de même pas, de supporter celui qui est bébé en la foi, et tout cela, je crois que l'Église locale a un rôle disciplinaire à jouer pour pouvoir manifester l'unité. Et là, j'en parle le mot discipline, non pas dans le sens sanction, parce que souvent, M. Brochet l'a dit, mais dans le sens d'éducation. Apprendre à vivre ensemble déjà dans l'Église locale pour que l'on puisse aller au-delà. C'est ce que je voulais dire pour ce matin. Et nous remercions M. Brochet pour tout ce qu'il a dit ce matin et hier encore. Et je vous invite à descendre pour le repas après avoir reçu la bénédiction de la part du Seigneur. Nous nous levons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Et comme annoncé, cette dernière partie du week-end consacré à l'œcuménisme sera consacré en majeure partie à échanger les points de vue, les convictions, les positions même que les uns et les autres ont eu ou ont encore vis-à-vis de ce sujet brûlant qu'est l'œcuménisme. Et c'est pour cela qu'en un certain sens, je suis d'accord avec M. Brochet quand il m'a dit tout à l'heure qu'il a terminé son travail. C'est vrai, mais maintenant c'est surtout à vous de prendre la parole. Vous allez prendre la parole soit pour lui poser quelques questions sur tel point qui peut-être serait obscur pour vous. Vous allez prendre la parole soit pour le contredire, je ne sais pas, ou aussi pour confirmer certains points de son développement. J'aurai aussi une petite intervention à faire, non pas pour contredire, je le dis déjà, mais pour souligner quelque chose de particulier, des formations professionnelles. Et en tant que pasteur, je suis très sensible à l'Église locale, et pour elle-même et au sein des autres églises. Alors donc, vous avez maintenant la parole.
Passion évangélique de France est celle qui parlerait le plus explicitement d'une attitude envers l'œcuménisme en général, plutôt dans le sens de réticence par rapport à l'œcuménisme majoritaire, celui de l'axe COE. Mais même là, il n'y a pas d'instance de commission, à ma connaissance, qui soit vouée aux affaires œcuméniques.
Ce que j'ajouterais, c'est simplement une constatation. C'est vrai, on peut constater deux positions dans le monde évangélique concernant l'œcuménisme. C'est que ou bien, comme dans le cas de la Fédération évangélique de France, ou bien on met l'accent contre ce qui se fait dans le monde œcuménique, catholique et au Conseil œcuménique des Églises, ou bien pour les autres évangéliques, on se contente de dire que nous sommes unis et ponctuellement, quand il s'agit soit d'une campagne d'évangélisation ou d'autres choses comme ça, on manifeste cette unité. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de structure permanente pour penser à une unité au sein du monde évangélique. Ou bien on est contre ce qui se fait, ou bien on se contente de dire que nous sommes unis et par moment on le manifeste. Alors, je ne sais pas si Christian, en posant cette question, souhaiterait qu'il y ait une telle structure. Et tu parles jusqu'au bout de tes pensées.
Est-ce que vous donnez un coup de pouce ? Ce qui me fait penser à ça, c'est des réactions positives ou négatives, d'ailleurs, par rapport aux écrits de Robert Somerville, où il y a eu un tabac qui me semble exagéré par rapport à la réalité. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ressortir de ça par rapport à l'approche écuménique?
Voilà, j'ai une question. Cette diversité d'églises, est-ce la pensée de l'homme qui a pris le dessus en formant son petit monde, ou avons-nous le même idéal et le même respect et la crainte de l'Éternel? Église charismatique, réformée, baptiste, avons-nous le même but où chacun a développé sa pensée? Voilà ma question.
Je dis un mot de réponse, mais je ne me monopolise pas du tout les réponses. Hein, mais comme j'ai parlé évidemment précédemment, certaines des questions se dirigent plus spécialement vers moi peut-être. En ce qui concerne la question posée par Christian Dougou, je pense qu'on peut dire qu'il serait souhaitable que les évangéliques se concertent davantage quant à l'attitude sur l'écuménisme. Et que c'est en pratiquant l'écuménisme évangélique que les évangéliques pourraient unir davantage leur réseau d'information déjà, parce que beaucoup dépend de l'information qu'on a concernant les relations avec les autres. Je crois qu'on pourrait le souhaiter. Et cela permettrait aussi peut-être dans les églises de couper les ailes à certains canards et de réduire la dose passionnelle qui s'attache à la discussion de certains de ces sujets. Les débats concernant ce petit livre qui a paru et qui, à mon avis, a été présenté de manière fort malheureuse et qui trompait sur son contenu et sur la part des baptistes français en particulier en l'affaire, et de M. Somerville, notre ancien pasteur, tout spécialement. Je pense que la publication de ce petit livre a montré qu'il y avait des passions incontrôlées qui se manifestaient. Nous avons essayé de les contrôler au tabernacle avec un entretien avec M. Somerville, vous vous rappelez, mais nous n'étions pas très nombreux cet après-midi-là. M. Somerville, malgré ses occupations, avait consenti et avait fait cet investissement. Mais il est sûr qu'il y aurait des choses à améliorer. En ce qui concerne ce que je viens de dire à propos de ce petit livre, je souligne que la présentation n'avait pas été vue par M. Somerville, que M. Somerville n'est vraiment responsable que du texte qu'il a écrit dedans, et qui est un texte auquel je crois personne d'entre nous ne peut trouver la moindre chose à redire, et que le gros du livre est issu de conversations entre baptistes américains et non pas français. Et parmi les baptistes américains, il n'y a pas que des évangéliques. Donc les choses ont été présentées d'une manière qui a, je crois, égaré le public en partie. Et on a accusé de façon tout à fait fausse M. Somerville et les responsables de la Fédération des Églises Baptistes Françaises qui prennent part à ces conversations, à ce dialogue sans équivoque, qui a lieu, qui a juste commencé d'ailleurs, qui continue. En ce qui concerne l'autre question, beaucoup plus générale, je dirais que les divisions ont deux, ou trois causes, trois types de causes. Ces divisions qui ont été évoquées, Église réformée, Église charismatique, etc. Et il y a des causes tout à fait malheureuses, indues, des personnalités qui ont démarré, des malentendus. Je crois que pour ces divisions, au moins relatives, dans le monde auquel nous appartenons, notre entourage ecclésiastique, il y a eu ce facteur. Il y a des raisons qu'on pourrait dire purement accidentelles, des raisons historiques qui ont pu jouer un rôle à un certain moment. Telle tradition, tel fondateur, puis une mission arrive et crée de nouvelles églises, etc. Et puis, il y a des raisons qui sont liées à des points de doctrine de rang second. Et c'est ça qui est le réel problème. Avec des réformés évangéliques, bien sûr, je ne parle pas de tout ce qu'on peut trouver dans les églises réformées, mais avec des réformés évangéliques, comme M. Courtial et Mlle de Védrine, avec des pentecôtistes ou charismatiques appuyés, comme on les appelle. Nous avons des différences sur des points sérieux, tels qu'il nous semble difficile de former une seule et même Église. En même temps, nous reconnaissons que ces sujets ne sont pas de premier rang et ne doivent pas nous empêcher d'être en communion pour des œuvres communes. de nous recevoir, de donner la parole dans notre Église. Ce ne sont pas des faux docteurs du tout. D'œuvrer en commun. Moi, j'ai eu une communion d'une étroitesse merveilleuse avec M. Courtial et Mlle de Védrine pendant 15 ans de travail de la revue Ictus, qui était une revue d'écuménisme évangélique. Donc, cette diversité-là, elle est due à la faiblesse humaine, qui s'est composée avec des facteurs historiques. Mais enfin, il y a un aspect de faiblesse humaine dans la compréhension des Écritures. Sur la question du baptême, je regrette que mon grand et vénéré ami Pierre Courtial ne voit pas ce qui me paraît moi suffisamment net, qu'il ne faut pas administrer le baptême à des nourrissons qui sont incapables de dire quoi que ce soit, que ce n'est pas là la fonction biblique du baptême, que ça le dénature radicalement, donc il ne faut pas le faire. Mais il ne voit pas. Nous en débattons sans que l'un de nous puisse faire bouger l'autre. Alors il faut certainement en parler encore. Mais voilà l'explication, me semble-t-il, majeure de cette division, parce que jusqu'à un certain moment, c'est quand même une division, c'est vrai. Monsieur Courtial n'aurait pas pu, maintenant il est âgé, mais n'aurait pas pu être pasteur de notre Église, c'est sûr. Il a pu y prêcher, mais pas être pasteur. Donc, à ce degré, c'est une petite division.
J'aimerais peut-être aussi ajouter quelque chose, et c'est qu'en dehors de ces divisions entre les grandes églises, on assiste actuellement à un foisonnement de petites églises et d'apparence à la limite secte. Là encore, on peut se demander, mais pourquoi toutes ces petites églises et qui gênent en quelque sorte au témoignage de l'évangile de l'unité. Et là, on peut découvrir que bien souvent, il n'y a pas une question doctrinale ou des questions doctrinales profondes. C'est simplement telle personne qui a envie d'avoir une église de tel style, ou des chrétiens aussi qui souhaiteraient que les cultes se fassent de telle façon et qui se rassemblent pour lancer une communauté. Là encore, est-ce bien nécessaire? Et ne devons-nous pas nous supporter les uns les autres? Ne devons-nous pas accepter de se soumettre à l'Évangile pour faire passer au second plan ce qui nous plaît? Et je crois que là, dans ce siècle présent, il y a cette multitude d'églises qui surgissent et qui sont dues justement parce qu'il y a une tendance de supermarché. C'est vrai, on veut aller ici et là et pour trouver tel ou tel article. Eh bien, on vous offre toutes sortes d'églises, vous pouvez choisir. Et là, je ne pense pas que ce soit un bon témoignage pour l'Évangile et pour l'unité.
En fonction de ce qui vient d'être dit, j'ai la pensée que effectivement, il serait bon que nous, les évangéliques, entreprenions une action de grande envergure pour rassembler les éléments épars du troupeau et être ainsi plus fort, je dirais, face au faux œcuménisme ou au mauvais œcuménisme. D'un autre côté, n'y a-t-il pas un risque? À chaque fois, l'histoire humaine l'a montré, à chaque fois que les pensées se sont rassemblées et des groupes se sont agrégés de manière de plus en plus importante, un risque de dérive autocratique et disons une prise de pouvoir qui en fait détourne de l'objectif initial le groupe. Un aspect historique peut-être.
Je crois qu'il y a un aspect qui est l'aspect humain de l'Église. Bon, c'est d'origine divine, certes, mais nous sommes des hommes et des femmes, et comme des pierres de cette Église. Et bien souvent, il faut un encadrement ayant une certaine autorité pour justement éviter, et ce que M. Blochapelet est la force centrifuge. Il faut canaliser, il faut maintenir. Et là, c'est vrai, et c'est le risque. C'est le risque. Et alors comment accepter librement de vivre dans des structures et pour manifester l'unité? Comment dire en politique? Pour raison d'État. Et accepter ces contraintes-là. C'est ça tout le problème. Et c'est pour cela que j'ai dit, et pour un écuménisme de grande envergure, pour sa réussite, il faut qu'à la base, les chrétiens soient éduqués dans leur église locale. Qu'on accepte déjà de jouer le jeu entre nous. Parce que si, avec les gens qui nous sont très proches, il nous est difficile de jouer le jeu, de nous soumettre, voyez, et librement, et parce que nous sommes d'un commun accord pour aller vers un même but, si nous ne le vivons pas, eh bien, lorsque nous allons vivre dans un grand cadre, et nous allons sentir cela comme pesant et comme dictatorial, et c'est là et l'enjeu. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on parle de l'unité, et c'est vrai, c'est quelque chose de spirituel, c'est le Seigneur qui crée cela, mais cela nous demande une discipline. Et M. Blochel a bien dit, si nous vivons par l'esprit, vivons et marchons aussi par l'esprit. Et c'est un apprentissage à marcher selon l'esprit. Et il faut le commencer dans l'église locale.
Je voudrais poser une question de méthode, peut-être. Le débat cet après-midi peut porter soit sur comment promouvoir un écuménisme évangélique, véritable, saint, S-A-I-N, et saint aussi, avec un T, fondé sur l'écriture sainte, et d'autre part, qu'est-ce que nous avons à dire et à échanger à propos de l'écuménisme, au sens où on l'entend aujourd'hui, et où on voit le mouvement écuménique s'efforcer de réaliser cette unité de tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais savoir comment... S'il y a des principes directeurs, parce que moi je ne suis...
Parce que là c'est une orientation, d'accord, que l'on a prise à la suite et de la question de Christian Dugou, mais cet après-midi, nous parlons librement de tout ce qui a trait à l'unité et à l'écuménisme, sans vouloir dire, nous sommes là pour créer une structure. Non, c'est pas cela. Maintenant, si tu veux nous parler dans ce sens, on écoute.
J'aimerais bien avoir des choses positives à dire dans ce sens. Je regrette les divisions trop fréquentes entre les chrétiens évangéliques pour des raisons de second ou de troisième rang. Évidemment, je sais que la discussion porte justement sur le fait de savoir si les problèmes dont il est question sont de premier ou de second rang. Je voudrais revenir à ce que notre frère Henri nous a dit hier. Tu as utilisé à deux reprises l'expression de combat spirituel. Il me semble que c'est bien cela qui nous rassemble et qui nous préoccupe, ce combat spirituel que nous devons mener contre des forces adverses. Donc il ne s'agit pas de combattre des hommes, ni même des institutions en tant que telles, mais de combattre l'adversaire avec tout son attirail de ruses et de manigances pour nous écarter du Seigneur et pour faire périr le peuple de Dieu. C'est ce qu'il a entrepris sans arrêt. Et quand on regarde le ministère de Jésus, on le voit dès le début du ministère de Jésus s'approcher du Seigneur et s'efforcer de le tenter ô combien subtilement. Je dois dire que j'ai fait ces dernières semaines toute une série de dessins sur la tentation et que ça m'a amené à reméditer cela et que ça m'a conduit aussi à Gethsémané où Satan aussi semble, bien que ça ne soit pas dit expressément, s'approcher du Seigneur Jésus. Nous avons donc affaire à ces grandes tentations et je crois que nous avons affaire de la part de l'adversaire à propos de l'esprit d'apostasie à une grande ruse qui se déploie dans le monde contemporain. Et je pense, c'est peut-être un postulat, mais qu'il y a des pièges qui nous sont tendus par l'adversaire et que le propre d'un piège, c'est d'abord de n'être pas perçu en tant que tel. On ne voit pas que c'est un piège et c'est pour ça qu'il peut fonctionner. Dès qu'on a aperçu que c'est un piège, dès qu'on a vu que c'est un piège, on prend ses précautions et on ne se laisse pas piéger justement. Alors, les questions que je voudrais soulever sont les suivantes. Elles touchent, d'une part, à la question du dialogue que tu as évoqué ce matin. Évidemment, c'est la réunion de ce matin qui me semble d'abord, pour moi, la plus importante pour notre réflexion. C'est-à-dire les enjeux, ce qui constitue vraiment cette foi que nous avons reçue à travers la fidélité de ceux qui nous ont précédés, les chrétiens de tous les siècles, depuis le premier siècle, à travers tout ce premier millénaire que tu as évoqué hier, à travers tout le second millénaire, à travers les persécutions des premiers siècles et du temps de la Réformation, nous sommes dépositaires de cette foi reçue, donnée une fois pour toutes dont l'épître de Jude nous parle. Alors, c'est elle qui est en question, c'est elle qui est menacée. Et je me pose des questions à propos du dialogue. Et les raisons pour lesquelles je me pose ces questions tiennent à l'insistance mise par les écuménistes. Je pense aux écuménistes que tu as plus ou moins classés comme libéraux ce matin, ceux qui forment le gros de la troupe écuménique, enfin celle qui en tout cas se fait le plus entendre, à l'écuménisme catholique qui est récupéré. Il y a eu une véritable conversion, c'est le terme utilisé par le pape lui-même et par des écrivains catholiques. Si vous permettez, je vais lire brièvement quelques textes. J'ai les deux numéros de l'Unité des chrétiens qui sont consacrés aux églises évangéliques. Le premier qui est paru en... Oui. Bon. Oui. Bon, si en même temps, je crois qu'il... Oui, je me suis tenu trop loin, excusez-moi. Le premier numéro paru en juillet 1984, auquel notre frère Henri Blocher a participé, le pasteur Louis Schweitzer, etc., et d'autres personnes éminentes du monde évangélique. Et je me rappelle qu'on en avait beaucoup parlé avec M. Jacques Blocher aussi. Alors, dans l'éditorial de M. René Giraud, qui est un prêtre... je vois que la première chose une des choses qui les préoccupe beaucoup, c'est celle-ci, c'est à la fin de l'éditorial, je cite, « Puissent les chrétiens des églises évangéliques s'attacher à discerner le meilleur des grandes églises qui leur semblent si lointaines et ne jamais mêler leur témoignage missionnaire d'un prosélytisme de mauvais aloi qui ne sortirait pas de l'Évangile. » Cette question du prosélytisme, de mauvais aloi, revient souvent. Elle revient de nouveau dans l'éditorial, cette fois de Guy Lourmande. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je pense que c'est un prélat aussi, peut-être.
C'est le responsable pour l'écuménisme. C'est un prêtre.
C'est un prêtre.
Je le connais assez bien, parce qu'il a succédé à Giraud.
Voilà. Je déduis des cinq premières lignes de son éditorial que l'Église catholique s'intéresse, dans la mouvance écuménique, s'intéresse aux églises évangéliques en raison de leur accroissement numérique et de la force, de leur vitalité spirituelle. Les églises évangéliques, je cite, constituent sans doute le groupe le plus nombreux et le plus dynamique du protestantisme évangélique. Un peu plus loin, et c'est là ce que je voulais citer, ce qui pose problème aux catholiques est que tout en faisant partie de la Fédération protestante de France avec laquelle nous sommes en collaboration au sein du Conseil d'Église chrétienne en France, il faudrait qu'Henri, tu nous expliques ce que c'est, s'il te plaît. Certaines églises évangéliques rebaptisent les catholiques qu'elles accueillent. Rebaptisent. Donc, ça, apparemment, ça les gêne passablement. Dans un autre numéro de l'Unité des chrétiens, je lis à la page 5 à propos du prosélytisme, de ce fameux prosélytisme de mauvais aloi. Il est fait référence à l'encyclique de 1920 et à la déclaration de Toronto. Cette solidarité impliquait aussi ce que soulignait l'encyclique de 1920 et la déclaration de Toronto, exhortant les églises, entre guillemets, voilà ce qui était dit, à s'abstenir d'actions qui seraient incompatibles avec des relations fraternelles, fermez les guillemets. Autrement dit, les relations inter-ecclésiastiques devaient éviter tout prosélytisme. Je vois là un danger grand, parce que l'on essaye, au fond, de nous museler les églises évangéliques d'empêcher, c'est, du moins c'est comme ça que je le comprends, et ça me fait, bien que je reste calme en ce moment, réagir très violemment, intérieurement, parce que je crois que la grande commission que le Seigneur Jésus nous a confiée avant de nous quitter, de monter auprès de son Père, c'est que nous soyons ses témoins, envers et contre tout. Et nous avons vu avec le meurtre d'Étienne ce que cela signifiait. Témoin, c'est le même mot pour martyr. C'est donc quelque chose d'important qui engage très très profondément. Les églises que nous constituons, et peut-être est-ce une des raisons aussi pour lesquelles nous avons de la peine à réaliser, au sens vrai du mot réaliser, l'écuménisme évangélique, c'est la nature même de nos églises, qui sont des églises non pas de multitudes, mais des églises de professants, qui sont constitués de personnes qui se sont engagées individuellement, qui ont répondu au Seigneur Jésus-Christ, pas de petits-enfants qui ont été baptisés et qui ont été faits chrétiens en quelque sorte, malgré eux, indépendamment de leur volonté, de leur décision. Donc on a de la peine un petit peu peut-être à se rassembler, parce que justement, nous avons ces particularismes, cette individualité qui est très forte. Mais je crois que notre témoignage ne peut pas être empêché, et nous ne pouvons absolument pas entrer dans les conditions du dialogue évangélique. Alors, c'est le second élément.
Le dialogue écuménique.
Oui, écuménique, c'est un lapsus malheureux, très malheureux. Mais peut-être qu'il révèle les positions sur lesquelles je me tiens, comme c'est le rôle du lapsus. C'est la question de savoir si le dialogue est possible ou pas. On peut toujours dialoguer, mais ce qui me semble être en cause dans cette histoire de dialogue est quelque chose de très sérieux. Henri, tu nous as dit à un moment, je ne me rappelle plus si c'était en aparté ou si c'était publiquement, que tu ne pensais pas qu'il y avait en quelque sorte machiavélisme de la part de l'Église catholique. Je ne parle pas des autres écuméniques qui me semblent, je m'excuse de le dire comme ça, un peu bêtement et naïvement, aller vers une unité sans vraiment se poser des questions sérieuses sur les conditions nécessaires. Du côté catholique, tu penses que du côté du pape, il n'y a pas, au fond d'arrière-pensée, que c'est leur nature, c'est la nature catholique justement, c'est-à-dire universaliste, universelle. C'est cette conception-là de l'Église, une et universelle, qui fait que ils tiennent ce discours, qu'il n'y a pas ruse pour nous prendre piège. Alors, je voudrais lire quelques passages, si vous le permettez, de l'encyclique de Jean-Paul II que tu as mentionné ce matin, Que tout soit un, dont je vous recommande vivement la lecture. Elle est extrêmement édifiante. Et voici ce que dit le pape, en paragraphe 35, page 44. Le Concile nous vient en aide une fois encore. On peut dire que tout le décret sur l'écuménisme est pénétré par l'esprit de conversion. Dans ce document, le dialogue écuménique revêt un caractère spécifique. Il se transforme en, entre guillemets et en italique, dialogue de la conversion, et donc, selon l'expression du pape Paul VI, en un authentique, entre guillemets, dialogue du salut. Le dialogue ne peut pas se dérouler suivant une démarche exclusivement horizontale,